Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ouvrir notre Bible dans le livre des psaumes, si vous voulez suivre simplement deux courtes lectures. On va commencer par le psaume 68, quelques versets. Et il va nous introduire dans une réflexion dont, je crois, l'église de Saint-Nazaire et de Redon a immensément besoin. Je le dis parce que je pense qu'on est là pour veiller à ce que l'église s'en trouve bien et qu'elle soit vivante. Alors, on va lire ça. Alors, le psaume 68, verset 4. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines, l'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Voilà, ça c'est une injonction. Maintenant, nous allons lire un autre passage, le psaume 110, verset 3, qui nous dit à peu près la même chose. Alors, psaume 110, verset 3, « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés au sein du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Et le verset 7, « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Alors, vous allez bien être obligé de relever un petit peu la tête parce que je suis un peu plus haut que vous. Mais c'est pas vers moi qu'il faut regarder. Hein, c'est vers le Seigneur et sa parole, elle est faite pour nous faire du bien, elle est faite pour nous donner de l'ardeur, de la ferveur et de nous réjouir. Parce qu'une église qui a perdu son sens, eh bien de sa joie, de sa ferveur et de son ardeur, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore une église? Et nous avons besoin dans la communauté des chrétiens, véritablement de nous réjouir en Dieu. Tout est là pour nous le dire, tout nous le rappeler. Je voudrais simplement commencer par ceci, c'est parce qu'il y a beaucoup d'expressions bibliques qui expriment la ferveur des sentiments ou des actions réalisées ou à réaliser, des actions de grande qualité qui portent les hommes à s'attacher à Dieu ou à aimer passionnément son œuvre. Vous en avez partout des textes comme ça. Vous tourniez les pages dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, eh bien nous le constatons. J'aimerais relever quelques exemples types qui nous parlent finalement de cette ferveur. Je prends dans le livre des Actes des Apôtres une église bouillonnante, une église vivante parce que c'est, nous pourrions dire, les tout débuts. Il nous est dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. » Et, par la suite, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, beaucoup de ferveur, si vous voulez, beaucoup d'ardeur, témoignage de la résurrection de Jésus. Ils ne prêchaient pas une doctrine, ils prêchaient une personne ressuscitée. Et notre joie, elle vient que, c'est vrai, Jésus, nous sommes joyeux qu'il ait pris notre place, mais nous sommes surtout joyeux qu'il soit ressuscité parce qu'il est vivant. Alors, c'est la communication, finalement, et la transmission de ce que nous croyons dans un Christ qui est vivant. Dans les dangers, on a tendance à se recroqueviller, à se dire « Ouh là là, c'est dur, c'est difficile ». Alors, dans les dangers, les apôtres avaient bien compris la chose, qu'il ne fallait pas se laisser à des états d'âme de tristesse ou autre. Il dira « Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». Donc, ils ne se sont pas laissés, eh bien là, emberlificotés par leurs soucis du moment, mais ils se sont dit « Il faut parler, il faut que nous annoncions ce que nous avons vu et entendu ». Par amour de la vérité, écoutez encore. Il nous est dit que les Béréens reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Voilà. Le mot « empressement » est significatif d'un climat, d'une atmosphère, d'un état intérieur chez les chrétiens de Bérée. Dans la perspective que Dieu est souverain, dans la pensée que Dieu est souverain, écoutez encore, « dans toutes ces choses, nous sommes plus que vaincus. » Bon, au moins vous avez de la réactivité. « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rejetés. » Alors, allez, il faut que je mette mes lunettes. Hein. Bon. « Par celui qui nous a aimés. » Alors, je remets les choses en place, s'il vous plaît. Hein. « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Un trait de caractère marqué. Il nous est parlé d'Apollos, qui était instruit dans la voie du Seigneur, et il était fervent d'esprit. Voilà, c'était son esprit qui était vivant, et tout le reste suivait. Si l'esprit est vivant, le cœur va être vivant, l'âme va être vivante, le corps va être vivant. Fervent d'esprit, Apollos. Paul, et sa passion pour l'évangile, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il dira, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Car l'amour de Christ me presse. Hey, c'est quand même des paroles. Hein. On les lit tous les jours. Et ces paroles, elles sont faites pour que nous puissions, eh bien, véritablement les vivre, nous aussi. On a eu des hommes qui nous ont précédés et qui nous ont dit ces choses. Une parole exhortative à Timothée. Timothée, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elle. Ben oui, ça c'est aussi, eh bien, quelque part, la démonstration et le témoignage que les choses sont faites, non pas négligemment, non pas avec désinvolture, mais d'une manière complète et totale. Et l'apôtre ajoutera pour Timothée, mais tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Voilà. Et quand c'est le cœur qui parle, je peux vous dire qu'il y a tout le reste. C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai. Même si vous ne me répondez pas, moi je réponds pour moi. Voilà. Derrière ces expressions se cache un mot qui évoque, vous l'avez deviné, le dynamisme, la passion sainte et saine, le zèle, l'empressement, puisque nous l'avons trouvé dans les mots, la ferveur, en somme, qui exprime la vie. Et s'il y a dans la société des hommes, dans notre humanité, une catégorie d'individus qui doit être remplie de vie, c'est quand même bien l'Église. C'est quand même bien les chrétiens. On est d'accord. Parce qu'autrement, si on ne l'a pas... Moi, quand je regarde, ça m'arrive rarement, parce que je ne m'y intéresse pas trop, mais quand je vois un match de football, mis à part après les... Hein, mais quand même, chacun défend finalement son équipe. Hein. Et je peux vous dire qu'il ne reste pas en place... Hein. Ils ne sont pas là en disant « c'est formidable, il a marqué un but, c'est extraordinaire ». Je veux vous dire que ça crie, ça fuse, ça s'en va dans tous les sens. Et ce sont des hommes qui, finalement, sont tout à fait en dehors de l'esprit de ce dont nous sommes en train de parler. Mais la vie est là. Alors, il s'agit bien sûr de savoir quelle vie. Et comme nous avons la vraie vie, alors à ce moment-là, elle doit se manifester, la vraie vie. Parce que ce n'est pas autrement. Un état d'âme. Un état d'esprit insufflé, parce qu'il vient de Dieu, et je crois que toutes ces choses nous viennent par Dieu, et ça devrait être avant tout la caractéristique dominante de nos vies chrétiennes. Nos cultes, nos réunions de prière, je le répète, vous allez dire, Alain dit toujours la même chose. Bon, mais je voudrais quand même insister sur le fait, c'est que ça devrait fuser de tous les côtés, vous êtes d'accord ? Oui, vous êtes d'accord, mais il faut le faire. Ça devrait pouvoir, on devrait se bousculer dans la prière le mercredi soir. On devrait pouvoir, dans la louange, alors que nous avons vécu diversement nos semaines, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mais de dire, Seigneur, je suis dans ta maison, je suis dans ta présence et je suis heureux. Et on devrait se bousculer les uns les autres. Quelquefois, il y a des blancs, il y a des temps morts. Et ça ne devrait pas être que l'un chante un petit cantique, que l'autre apporte, eh bien, un don spirituel, qu'un autre puisse dire, eh bien, merci Seigneur, on n'a pas besoin de faire un grand discours, parce que les grands discours, quelquefois, ça tue. Mais de dire merci Seigneur, tu sais, j'ai vécu des choses cette semaine, j'ai été peut-être malheureux, mais tu étais là, et je suis content que tu m'aies soutenu et que tu m'aies béni. Eh oui, voilà. Parce que ça devrait nous faire reconnaître. Les gens disent, il y a la vie ici. Ils sont vivants, ces hommes. Et ils vont se poser la question, pourquoi ils sont vivants? Alors, faut pas que ça soit une sensiblerie religieuse, hein, parce que là, ça n'a pas cours. Mais quand c'est authentique, quand c'est vrai, vous savez qu'il y a certainement des dizaines et des centaines de gens qui sont venus dans nos églises, par le temps, et qui sont venus parce qu'ils ont trouvé la vie au milieu de nous. Parce qu'ils ont trouvé un enthousiasme. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose, eh bien, qu'ils n'avaient pas trouvé ailleurs. Je viens de dire le mot, finalement. C'est le mot enthousiasme. Être enthousiaste, on l'est pour certaines choses, qu'est-ce que vous en pensez? On l'est pour les choses de la vie, on l'est pour des choses indifférentes de l'existence. Alors à combien plus forte raison devons-nous l'être pour le Seigneur? Le mot enthousiasme, dans son sens étymologique, révèle ceci. Enthousiasme, du grec, anthéos, ou anthous, anthéos, formé de en, en, et de théos, littéralement, écoutez, en traduction, littéralement, qui porte Dieu en soi. Dieu est en moi. Est-ce qu'il est en vous? Le Seigneur est en nous. En théos, qui porte Dieu, il a élu domicile à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire qu'il m'inspire, qu'il m'anime, que je suis inspiré et animé par Dieu. Par ailleurs, quand la parole de Dieu affirme que selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, le chrétien est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole qui nous le dit. Alors c'est vrai que dans la pensée que nous pouvons avoir de nos religions actuelles, c'est vrai que dans un temple ou dans une église, il ne faut pas faire de bruit, il faut que ça soit allumé avec des bougies. Il ne faut surtout pas claquer les portes, il ne faut surtout pas se manifester, ceci et cela, hein. Tout est réglé, tout est selon la liturgie, etc. Mais c'est pas ça. Regardez les gens qui suivaient Jésus, ils criaient, il y en a un qui a mis un beau bazar dans le temple de Jérusalem, c'est quand il a été guéri, vous savez, quand il était boiteux. Il est rentré, il sautait, alors c'était aux grandes dames de tous ceux qui le voyaient, ils ont dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah oui, mais ce qui lui est arrivé, c'est qu'il avait rencontré Jésus, et il avait fait une expérience formidable, surnaturelle, miraculeuse. Eh bien, nous sommes tous des miraculés, et nous avons tous touché du doigt la grâce de Dieu, et nous devrions sauter de joie. Attendez, hein, maintenant c'est plus solide. Hein. On a mis un carrelage. Ah ben non, il ne faut pas le casser, il est tout neuf. Hein. Enfin, quoi qu'on a la garantie décennale, alors vous pouvez y aller. Donc voilà, le temple du Saint-Esprit, dont le fruit, dont les trois premiers fruits, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix et la joie. Nous l'avons ou nous ne l'avons pas? Nous sommes en train de soupirer, Seigneur, envoie-nous le Saint-Esprit. Donne-nous un renouvellement du Saint-Esprit, mais on l'a ou on ne l'a pas? Et si on l'a, on doit caractériser entre autres les trois premiers, l'amour, la paix et la joie. Un chrétien doit aimer, un chrétien doit être joyeux et il doit procurer la paix autour de lui. S'il n'y a pas ça, c'est un signe distinctif. Vous pouvez faire toutes les œuvres que vous voudrez, il manque quelque chose. Alors, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ne doit-il pas être, dans ces conditions, l'homme, le chrétien, le plus enthousiaste, le plus joyeux, le plus plein de vie de tous les hommes? Vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, je reprends le texte, le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous serez d'accord avec ça. Mais ce n'est pas d'être d'accord qui est important. C'est d'être d'accord et de le vivre. Et de laisser le Saint-Esprit faire les choses en nous. Eh oui, combien de fois le Seigneur frappe à notre porte et nous dit « Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Je voudrais faire quelque chose. Je voudrais te montrer une nouvelle dimension, une nouvelle aventure. » Nous connaissons tous des heures de tristesse, et c'est vrai. Mais en considération que Dieu vit en nous, pouvons-nous vivre et rayonner sans la moindre étincelle dans notre âme, sans que notre cœur brûle au-dedans de nous? Alors à ce moment-là, il y a un non-sens. Un non-sens. Parce que ça doit être la correspondance de ce qu'il y a, finalement. Vous savez, un chrétien doit se caractériser d'abord par un sourire. Vous ne trouvez pas ? Dans le commerce, on fait des sourires. Et on ne s'en ferait pas les uns les autres ? Pas des grimaces, hein, des sourires. On devrait être les porteurs de cette vie. Alors, malgré la tristesse, regardez Paul et Silas. Ils avaient fait une séance de massage dans la prison de Philippe. Oui, on les avait un petit peu... on les avait bousculés un petit peu. Ils avaient été flagellés, ils avaient été lamis dans les fers. Et c'était quelque chose d'épouvantable. Eh bien, il nous est dit qu'en pleine nuit, ils ont chanté des cantiques. Merci Seigneur, parce que on nous a fait du mal, c'était pas ça. Merci Seigneur, parce que dans le mal, eh bien, ils n'ont pas pu faire taire notre joie et notre paix en toi. Et notre foi, en tous les cas. Ça dépend comment on voit les choses. Hein. Il y a 15 jours, 3 semaines, on a parlé d'un texte, on a médité un texte sur la façon dont nous regardions les événements et les choses, et même les gens. Alors, ça c'est quelque chose. Écoutez, il y a un triste état. Dans une église nommée, dans le Nouveau Testament, c'est l'église, c'est l'état spirituel de l'église de Laodicée. Et Dieu va lui dire par l'Esprit, « Je sais que tu n'es ni froid, que tu n'es ni bouillant, mais que tu es tiède. Le Seigneur voudrait nous réchauffer, surtout après l'hiver que nous avons passé. » On ne sait pas ce que va être l'été, mais toujours est-il que le Seigneur voudrait réchauffer son Église. On parle d'évangélisation. Eh bien, il faut que l'Église soit chauffée à la température nécessaire pour accueillir des nouvelles personnes. Parce qu'il fait froid dehors. Parce que les gens ont froid, ils grelottent. Ils grelottent au fond de leur corps. Ils grelottent au fond de leur cœur, dans leur âme. Et ils ont froid. Il faut qu'ils trouvent quelque chose qui va les réchauffer, quelque chose qui va leur faire du bien au milieu de nous. Et il n'y a rien de tel qui réchauffe plus qu'un accueil joyeux, un accueil de paix. Et puis quand les gens savent et sentent, parce que ça se dit pas ça, mais ça se sent, quand ils sentent que véritablement il y a la chaleur de l'amour, eh bien c'est ça. C'est toujours, finalement, cette relation qu'il peut y avoir entre ce que je suis, le Saint-Esprit qui est en moi, et ce que moi je traduis, ce que je vais communiquer aux autres. Alors pour la Odyssée, ne serait-ce pas le signe symptomatique d'une perte de conscience que Dieu est en nous, que Dieu était plus dans l'église de Laodicée? C'est triste. Serait-on étonné encore pourquoi Paul avait un tel tonus spirituel? Parce qu'il en a vu, hein. C'était pas un long fleuve tranquille, hein, pour Paul, hein. On peut le dire. Hein. Ce punch, comme ça qu'on dit, hein, dans l'action. Parce qu'il ne s'arrêtait pas, hein. Il y allait. Qui le menait finalement de victoire en victoire et que rien ne pouvait l'arrêter, pas même les pires persécutions. Et d'où lui venait cette force à Paul? Il y avait bien quelque chose, il y avait bien un secret. Eh bien ce secret, il est tout simple, c'est qu'il avait la conscience, cette conscience permanente de Christ en lui. Est-ce que Christ est à côté de moi ou il est en moi? Il faut le savoir. Parce que s'il est en moi, c'est partie intégrante. Je suis ce qu'il est. Il est et il donne pour que je sois comme lui. Et ça va, il n'y a rien à dire d'autre. Et il l'écrira d'une manière admirable, il dit, mais si je vis dans la chair, parce que nous vivons encore dans notre humanité, et ce sont des paroles formidables, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous ne trouvez pas que ça formidable? Et si Christ vit en moi, Christ n'est pas triste. Christ n'est pas en dépression. Christ n'est pas là dans la défaite. Mais Christ est vainqueur. Et ça change tout. L'enthousiasme de Paul, parce qu'il savait que Dieu était en lui. Jésus nous rappelle. Hein. Parole testamentaire, la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, Jésus nous dit « Mais je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » « Moi, je prierai, dira-t-il plus loin dans l'évangile de Jean, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Et qui dit consolateur, dit, eh bien, suppléer à nos peines, à nos tristesses, et qui dit consolateur, celui qui apporte la paix, qui apporte la joie, qui apporte le dynamisme. C'est ça la consolation. si je suis consolé, si je dis que Christ me console, que le Saint-Esprit me console, le paraclète, et que je continue à vivre dans la tristesse la plus pitoyable, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, regardez comme je suis joyeux ce matin. Et je ris pas, attention, hein. Non, mais écoutez, c'est vrai, mes frères et sœurs, moi je vous dis ça avec peut-être un petit peu d'humour, et prenez-le dans le bon sens, mais franchement, on a vraiment besoin de rentrer dans une autre dimension. Vous ne trouvez pas? Non, vous ne trouvez pas, mais c'est pas grave, on va y arriver. Mais oui, un chrétien, c'est un chrétien joyeux. Soyez toujours joyeux, nous dit Paul aux Philippiens. Je vous le répète, soyez joyeux. Pas de cette joie, vous savez, frivole, fugace, hein, sensiblerie, comme je le disais, hein, où je me réjouis de tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Mais c'est de la joie qui vient de l'intérieur, Seigneur. Elle vient de l'intérieur, elle vient de l'esprit. L'esprit, c'est une huile, l'huile d'onction. Alors, l'esprit de vérité qui demeure avec vous et il sera en vous. Il y a un prophète, je ne me souviens plus lequel, il dit, mais la joie de l'Éternel sera votre force. Eh oui, la joie de l'Éternel sera votre force. Laissons à Dieu maintenant toute la place et sa personnalité dans la nôtre et nous allons voir un exemple, plusieurs exemples brièvement. L'enthousiasme est lié à la joie et à la confiance. D'accord. Comme Dieu nous a donné l'une et l'autre, la joie par le Saint-Esprit et la confiance autour de sa parole, ce qui naturellement produit la foi, le peuple de Dieu devrait déborder de cette vitalité, puisqu'il sait qu'il a Dieu en soi. Alors, comment se fait-il? Et pour quelles raisons trouve-t-on davantage d'apathie et un manque évident d'ardeur, pour ne pas dire de ferveur, chez les chrétiens? Est-ce que nous n'allons pas au ciel? Est-ce que la vie éternelle ne nous est pas promise? Est-ce que nous ne sommes pas plus riches que tout le reste du monde? Mais oui, si je fais le compte, mes seigneurs, tu es formidable, parce que j'ai des choses que les autres n'ont pas. Ah, ils n'en veulent peut-être pas, mais moi, en tous les cas, j'ai cru que je pouvais les avoir et tu me les as donnés. Et les trésors de Dieu sont immenses pour chacun d'entre nous, puisque Jésus nous le rappelle qu'il veut que nous soyons dans l'abondance, et non pas dans la restriction. Et quand il ne donne pas avec parcimonie, il donne avec largesse. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Alors, pourquoi? Puisque nous avions posé, comment se fait-il? Cela tient à plusieurs choses qu'il est utile de considérer pour mieux nous connaître et remédier au problème. Je le dis avec vraiment beaucoup de sérieux, je sais que dans nos vies, dans vos vies, certains et certaines, jeunes ou moins jeunes, vous avez, c'est vrai, de grands et de graves problèmes, je le sais. On y revient de temps à autre dans les messages d'exhortation, de consolation, mais aujourd'hui je voudrais donner une autre version. On va pas parler de, c'est vrai, des situations, de blessures et tout ça. C'est vrai, on le considère et on prie pour ça. Mais je voudrais vous dire qu'il y a un autre chemin pour s'extraire de toutes ces choses qui, finalement, eh bien, nous invalident et nous rendent profondément malades, mais nous ne voulons pas nous laisser enfermer dans tout cela. Alors d'abord, la première chose que j'aimerais mettre devant vous, c'est une mauvaise compréhension ou une mauvaise interprétation de la volonté divine susceptible de paralyser et de saper notre enthousiasme. Nous croyons que c'est ça, mais ce n'est pas ça, parce que les fruits ne sont pas là. Vous savez que tout se vérifie aux fruits, hein ? On est bien d'accord ? Les œuvres, c'est discutable. La perplexité engendre le doute, lorsque je suis en perplexité tout en étant chrétien, et cela va avoir pour effet de briser les élans les plus naturels. Dieu nous a appelés à être spirituels, mais il y a quand même aussi toute la vie qui est à côté. On est d'accord? Nous ne sommes pas encore des êtres éthérés et purs esprits. Ça viendra. Mais pour l'instant, on est sur terre. Dans nombre de choses de la vie, il est certain, chrétien, qui s'imagine qu'il est interdit de prendre des initiatives, de vivre normalement, de s'engager dans telle action sans avoir au préalable passé un long temps de recueillement. Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Permettez-moi de vous dire, en ce qui me concerne, c'est beaucoup plus simple que ça, et je vis beaucoup plus heureux. Parce que si je vois passer des jours et des jours, je peux vous dire que vous n'allez pas avoir beaucoup de messages. Un ou deux par an. Mais oui, mes frères, on vit. Et on vit pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est pas coupable. C'est pas péché. C'est on vit. Vous vous rendez compte, Jésus, lui, il vivait. Hein. Ah, quand on voit, il allait d'un lieu à un autre, il mangeait avec les uns, il mangeait avec les autres. Hein, il avait toutes sortes de choses. Mais il vivait. Parce que vivre, c'est vraiment honorer Dieu. Il nous a donné la vie. Et moi, j'ai pas envie d'être dans le tombeau avant d'y être, hein, réellement. On respire avec le Seigneur. On vit, il y a de l'oxygène. Et il est pur. Hein. Un pur oxygène. Toute existence, alors, est comme pétrifiée, alors que le bon sens nous dicte qu'il nous faut faire et il nous faut être le plus naturellement possible. C'est Dieu qui nous inspire. C'est Dieu qui nous donne. Seigneur, on est impliqué dans la vie sociale, on est impliqué dans la vie professionnelle, on est impliqué auprès des amis, on est impliqué conjugalement, familialement, avec nos enfants, et ceci et cela, autant de choses qui s'appellent la vie. Hein. C'est pas vrai? Et le Seigneur est ici, dans ce lieu, mais il est aussi dehors quand j'y suis. Hein. Ah, parce qu'il est avec moi. Ah, il est en moi, j'ai oublié. Eh oui, naturellement. Va-t-on s'obliger à interroger le Seigneur pour savoir quel menu je vais faire pour la semaine? À quelle station-service je veux prendre mon essence? Moi, il y a une chose qui me dirige, c'est les prix. Hein. Ou encore si je vais remercier ce matin au culte. Mais si je suis venu au culte, c'est parce que je suis venu pour remercier. Je ne veux pas me prier pendant 2 heures pour savoir si je vais remercier. Je vais remercier le Seigneur, je vais le louer et je vais le bénir. On est d'accord? Alors je vous attends tout à l'heure. Sinon, je mets ma vie en prison et le Seigneur m'a parlé qu'il m'avait affranchi. Je ne suis pas en prison, je suis un être libre. La vie, c'est la spontanéité. On ne va pas faire n'importe quoi, je ne vous parle pas du reste, mais je vous parle des choses qui sont normales et des choses qui font partie et qui sont partie incluante dans le plan de Dieu. La spontanéité. Si d'aventure, dans un engagement, je ressens un malaise et soupçonne la désapprobation de Dieu, alors j'examine mes mobiles et je me laisse conduire. Mais ça, c'est aussi naturel. Le Saint-Esprit est en moi. Oui, il faut faire les deux, naturellement. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais une chose qui est certaine, tant que les choses appartiennent à la vie que Dieu m'a donnée, et puis même dans les choses les plus simples, je vais remercier le Seigneur. Moi, ce qui véritablement me touche profondément, c'est que quand on sait, compte les bienfaits de Dieu et tu verras, hein, si tu les mets devant tes yeux, combien le nombre en est grand. Eh bien, dans les moindres choses de la vie, les choses indifférentes, même quand on va faire nos courses, hein, on n'est pas des modèles, hein, mais quelquefois, avec ma femme, on dit, ben voilà, il y a ceci et cela à acheter. Eh ben Seigneur, tu vas me conduire et tu vas me diriger. Et puis, tu vas nous dire, hein, voilà, tout simplement, mais je ne veux pas passer 3 heures avant d'aller au magasin. Hein. Et on voit que le Seigneur nous donne sa grâce. Et c'est vrai. Seigneur béni. Vous croyez pas? Il faut rendre la vie un peu plus simple. Un peu plus simple. Donc, c'était une mauvaise compréhension ou interprétation de la volonté de Dieu. Deuxième point. La culpabilité que j'entretiens, c'est moi, hein, qui neutralise l'enthousiasme. Eh oui, dans quel état je suis sur le plan moral et spirituel. Si nous sommes des chrétiens brouettes, nous promenons devant nous nos défaites, nos contrariétés, nos transgressions. Nous faisons en sorte à ce moment-là, nous péchons par incrédulité et l'incrédulité a la toute-puissance de nous priver de nos énergies morales et spirituelles. Moi, les problèmes, je veux qu'ils soient derrière et pas devant. C'est pour ça que je vous ai parlé de brouette, parce qu'une brouette, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, le moteur est à l'avant sur une brouette. Enfin, je suis pas un jardinier, vous avez compris. Mais toujours est-il que c'est ça. Si je ne vois que le côté négatif, si je ne vois que le pire, alors ça va me renvoyer et il y en a un qui va exploiter à fond. Vous savez, c'est le diable. À lui, je peux vous dire qu'il va vous mettre la dose. Il va vous mettre vraiment la mesure qui est secouée et qui déborde. Parce que lui, son travail, mais c'est véritablement nous rendre le plus malheureux possible, être les gens les plus malheureux de la terre. Alors que mon sauveur veut que je sois l'homme le plus heureux de la terre. Alors il va me charger à l'extrême. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que la culpabilité? Je ne parle pas de la vraie culpabilité que le Saint-Esprit, parce que ça, on le connaît. Mais je parle de la fausse culpabilité. Je suis un peu comme la femme à la... Vous savez, qui était courbée depuis 18 ans, qui ne pouvait aucunement se relever. Dès qu'elle voulait se relever, paf, un petit coup sur la tête, et elle était encore baissée. Et plus elle vieillissait, plus elle baissait davantage. C'est normal. Et alors, à ce moment-là, eh bien, je fais preuve d'incrédulité. Et vous savez que l'incrédulité, c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout au Seigneur. Hein. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en moi, nous dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Comment négocions-nous ce problème de la fausse culpabilité? Peur, finalement, de retrouver des choses, de se confronter avec des choses. Il faut cesser, mes frères et sœurs, de se culpabiliser à plaisir. Il faut que nous apprenions à devant Dieu, sincèrement, il nous a donné les moyens à purger notre conscience. Et notre conscience, elle est purgée, nous dit la Bible, par le sang de Jésus. De toute pensée négative, morose et démoralisante. Parce que si je me dis que je suis là pour aider les autres et que je suis démoralisé moi-même, ben je ne serai pas mieux que les 10 espions, vous savez, qui sont revenus après avoir visité le pays de Canaan et qui ont encouragé le peuple en disant « Si vous y allez, vous allez vous faire manger, hein, alors n'y allez pas. » Non, il y en a eu deux. Il y a eu Caleb et Josué en disant « On y va, parce que le Seigneur est avec nous. » Alors, savoir que mes péchés sont pardonnés et le proclamer dans la louange, dans la joie et la reconnaissance, sans passer constamment la marche en arrière, stimule l'enthousiasme et nous fait aller de l'avant. Mais oui, Seigneur, si je suis en train de vivre et de repenser les éléments peut-être négatifs de la nuit dernière ou de la journée d'avant et de tout ce qui s'est passé. Vous avez péché cette semaine? Ben, tout le monde a péché. Et nous restons comme ça. Alors, si vraiment nous avons péché, alors il faut pas venir au culte parce que vous ne vous sentez pas dans l'état de venir au culte. Et vous venez quand même. Mais on vient à moitié. Je viens dans la joie parce que le Seigneur m'a pardonné, je suis convaincu qu'il m'a pardonné. Il y a encore des problèmes à régler dans nos vies, mais il va les régler. Et je veux me laisser faire. J'y arriverai peut-être pas du premier coup, mais je ne vais pas me laisser emberlificoter par la culpabilité. Par cette fausse culpabilité, elle est sordide, elle est perfide, elle est pernicieuse, pour m'empêcher que lorsque je vais trouver devant mes frères et sœurs et devant mon Dieu, eh bien je puisse lui dire, mais merci Seigneur, tu es mort à la croix, et tu m'as affranchi complètement et totalement, et je suis un homme heureux. Et une femme heureuse. Je fais une chose, nous dit Paul, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je tends. C'est pas facile, je vais peut-être pas y arriver, mais je tends, Seigneur. J'y vais, je le veux, je le désire, je tends vers ce qui est en avant et je cours vers le but, hein, parce qu'une fois que je suis lâché, j'y vais. Que j'ai lâché tout ça derrière. Troisième point, rapidement. Les complexes étouffent l'enthousiasme. Alors c'est vrai que quand on arrive à un certain âge, les complexes, ils sont passés. N'est-ce pas, mes frères les plus anciens? Mais quand on a 20 ans, quand on est jeune, même au milieu de la vie, on est bourré de complexes. Parce qu'on a peur de ceci, on a peur de cela, on veut réussir, on est encombré par toutes sortes de choses. Ça peut être physique, c'est moral ou autre chose. Permettez-moi de vous dire que les complexes, ce sont les épines et les ronces de la parabole. Ça étouffe. Ça empêche de pousser la bonne graine. Le complexe est une forme d'orgueil à l'envers. Et on pourrait le dire comme ça. La sous-estimation de soi. Il y en a qui sont surestimés, qui se surestiment en disant, vous savez, hein, vous m'avez vu, hein, il n'y en a pas deux comme moi. Et c'est vrai. Mais néanmoins, la sous-estimation, c'est-à-dire ce qu'il y a à la cave... Alors, je ne suis pas capable, ou je n'y arriverai jamais. Je l'entends souvent en tant que pasteur. Ouais. Il y a des frères et des sœurs qui viennent me voir, et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, en disant, bah, écoute, Alain, non, vraiment, je ne me sens pas capable. Bon, bah, d'accord. Pas capable. J'y arriverai jamais. Mais est-ce que c'est vraiment le langage de la foi? Est-ce que c'est le langage de l'enthousiasme? Est-ce que c'est le langage qui nous amène à dire, eh bien Seigneur, si je ne peux pas y arriver, mais c'est toi qui vas m'y faire arriver? Et vous savez, je me suis souvent posé la question, je l'ai dit quelquefois au Seigneur, je lui ai dit, mais je ne suis pas capable. Il m'est arrivé de me trouver quelquefois dans des situations extrêmement difficiles pour prêcher. Soit des sépultures, énormes sépultures, ça m'est arrivé. Me trouver dans des églises où il y avait peut-être un auditoire de 1000 à 1200 membres. Et j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas habitué, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je suis encore vivant, je suis là. Je ne suis pas mort. Et puis, le Seigneur nous a aidés à tout cela. Et à chaque fois, il faut remettre le travail sur la table. C'est-à-dire que, à chaque fois que je dois faire un... je ne suis pas toujours en forme. Je ne suis pas capable, Seigneur. Je ne veux pas retourner à mes complexes en disant, autrement, il n'y aurait rien du tout. Cette envie d'avancer, mais toujours retenue, parce que quelques freins invisibles, intérieurs, insoupçonnés, m'immobilisent. Dieu nous rappelle à vivre épanouis et à donner la pleine mesure dans les facultés et capacités qu'il nous a confiées, puisque s'il nous a la confiée, s'il nous a donné ses capacités, il ne s'est pas trompé. Mais moi, il faut que je croie qu'il me les a données. Il faut que je croie qu'il va les utiliser, qu'il va les valoriser et qu'il va les développer. Mais si je dis, Seigneur, tu m'as fait un beau cadeau, alors je le mets. Eh oui, vous savez, comme le talent que l'on met dans un linge, qu'on le met dans la terre, en disant, Seigneur, quand tu reviendras, je te le redonnerai, il est intact. Mais le Seigneur ne veut pas que nous restions dans cette situation. Il nous dira, mais qu'est-ce que tu as rapporté? Je te l'avais donné, maintenant c'était la foi. Alors arrête avec tes complexes, parce que si tu regardes aux autres qui en ont rapporté 5, qui en ont rapporté 10, mais les autres, je leur ai donné en fonction de leurs capacités, mais à toi, je te l'ai donné en fonction de tes capacités. Et c'est comme ça que l'Église avance, c'est comme ça qu'elle vit, c'est comme ça qu'elle bouge, c'est comme ça qu'elle évangélise, et c'est comme ça qu'elle est un témoignage dans notre monde. Les choses sont ainsi. Alors, je dis que nous avons besoin de faire une guerre sans pitié à nos complexes, et nous trouverons et nous retrouverons l'efficacité, la tonicité et l'ardeur qui glorifie Dieu. Dans l'Église primitive, ils étaient bouillants. Oui, c'était des Juifs en plus, des Orientaux. Alors, nous, on est des Occidentaux, on a encore une autre... Mais vous savez que notre culture judéo-chrétienne nous a vraiment éteints. Non, mais c'est vrai, franchement. Alors, on vit avec le temps, on vit avec la mentalité qui est la nôtre. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se laisser enfoncer et se laisser mourir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des êtres figés, mais bien vivants. On n'est pas appelé à être des pièces de musée, à vivre notre temps, à vivre dans notre actualité. Quatrième point, si vous aimez les histoires de famille, un cousin germain du complexe. Cousin germain du complexe, c'est l'apitoiement et la complaisance de soi, ce sont deux destructeurs d'enthousiasme. On s'écoute, c'est une expression française. On s'écoute, on n'écoute pas les autres, on n'écoute pas le Seigneur, mais on s'écoute. Et on devient hypochondria. Oh, j'ai certainement une douleur ici. Je l'ai, la douleur. Oh, c'est certainement un cancer. Vous comprenez? J'ai mal aux jambes, on va certainement m'amputer la jambe. Alors, si vous faites ça à tous les membres, il ne va pas rester grand-chose. S'écouter. Si nous prenons la mauvaise habitude de faire le siège autour de nos petits problèmes, et je dis bien petits problèmes, regardez comment les gens autour de nous et par-delà nos frontières vivent et les conditions de vie, je dis bien nos petits problèmes, et de nos mini-contrariétés, parce qu'on n'a pas été encore jeté en prison pour notre foi, on ne nous a pas passé à la roue ou mis au bûcher, ce qui est arrivé, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire. De faire de tout une montagne, il est plus que probable que nous allons faire du surplace. Je dis bien, nous allons être au parking. Si nous nous formalisons pour le moindre événement, si nous déclarons affaire d'état de la plus petite peccadille qui vient frapper notre vie, ne soyons pas surpris que nous ne progressions pas. Et que notre vigueur, notre zèle s'étouffe sous les cendres, sous les cendres que nous tentons sans cesse de rallumer. Si Dieu a éteint le feu, un mauvais feu, n'essayons pas de le rallumer. Et quelquefois, nous essayons de le rallumer, vous savez quoi? Avec de l'essence. barbecue. Le psalmiste nous dit ceci, « Je disais, je suis bien malheureux. » Ça, c'est dans le psaume 116. Ouais. Si je répète ça toute la journée. Vous savez, je pense que vraiment, on a besoin d'un renouvellement, d'être recyclé par l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Les uns et les autres, hein, c'est pas une critique systématique que je fais, mais toute l'Église, chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être... Et si, tous les jours que Dieu me donne, alors je dis, mais je suis bien malheureux de ceci et cela, mais si je me ressasse, si je ressasse cela, mais je serai forcément malheureux. Mais si je me lève, même quelquefois j'ai mal à la tête quand je me lève, je suis pas toujours très bien, on peut avoir des vertiges, on a toutes sortes de choses, et puis toutes les contraintes et les obligations de la journée. Mais si je me dis, mais Seigneur, c'est vrai que j'ai tout ça, mais tu es avec moi, et je suis heureux finalement avec ta grâce, parce qu'il va se passer des bonnes choses. Si je pense qu'il va se passer des bonnes choses, il se passera des bonnes choses. Si je pense qu'il se passera des mauvaises, il va se passer des mauvaises. C'est un état d'esprit. Et je dis que cet état d'esprit ne vient pas du Seigneur. Il vient d'une pollution que nous avons dans le monde actuel où finalement on est en pleine crise de sinistrose. Et quelque chose qui vient aussi, c'est que l'adversaire est en train de nous empoisonner. Et il veut tuer la vie des chrétiens. Il veut tuer la vie de l'esprit. Je suis bien malheureux, embourbé dans les marécages, en s'agitant. Et lorsqu'on s'agite, on ne fait que s'enfoncer toujours plus profondément. Dernier point, la peur d'échouer fait barrage à l'enthousiasme. On l'a dit tout à l'heure, j'y arriverai pas. La peur d'échouer fait barrage à l'enthousiasme. Que caractérise un tempérament, et c'est peut-être davantage caractériel, mais le Seigneur a aussi son mot à dire sur notre tempérament. Un tempérament qui ne fait confiance en rien ni à personne. Et ça existe, hein, même chez les enfants de Dieu. On ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance aux autres. On ne fait pas confiance à la vie. On ne fait pas confiance au Seigneur. Et ça, c'est terrible. Ça peut arriver. La Bible l'appelle un indécis. Vous savez que dans un psaume, il y a une parole terrible, hein. Dieu dit, je hais les indécis. C'est terrible, hein, ça. Celui qui est assis entre deux chaises, celui qui regarde les nuages voler, enfin, passer, pardon, les oiseaux voler, si vous voulez, c'est mieux. Un indécis, c'est celui qui doute de tout, et même des choses de Dieu. La parole de Dieu est claire. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit en nous, dans la mesure où nous avons ouvert la porte. Selon son bon plaisir, alors la conséquence, si c'est lui qui produit, la logique, faites toute chose sans murmure ni hésitation. C'est écrit, hein, j'ai rien inventé. Sans murmure et hésitation. Si je dois me tenir pendant des heures et des heures en disant « Seigneur, tu m'as parlé, mais maintenant, est-ce que vraiment tu m'as parlé ?» Quelle position inconfortable pour celui qui, en sachant, ne sait jamais quoi faire. Alors je sais que c'est un problème, il faut aider ses frères et ses sœurs qui sont comme ça. Il faut les aider dans la mesure où ils veulent qu'on les aide. Mais ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être exhortés, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être tranquillisés, ils ont besoin d'être en repos. Mais c'est quand même un problème. Ils savent, mais ils disent, mais je sais pas quoi faire après. Alors qu'est-ce que l'on fait? Ils ont un mal fou à prendre une décision et vous dire que ce chrétien-là perd un temps précieux dans d'interminables atermoiements, des hésitations sans fin à soupeser le pour et le contre. Si je fais ceci, ben je vais perdre cela. Si je fais cela, ben je peut-être... Mais oui, mais on n'avance pas quand c'est comme ça. On n'avance pas, mais on fait marche arrière, on recule, hein. On marche en crabe. Et c'est terrible. Alors, il y a des choses, hein, il faut y aller, hein. Et peut-être que je vais vous choquer, mais il y a des choses où il faut y aller. Mais je les prends par la foi et j'ai confiance dans mon Seigneur, même si je ne sais pas ce que sera finalement le maître qui vient devant moi, enfin la suite. Mais je vais le faire quand même parce que c'est le Seigneur qui me l'a demandé. Tout simplement, je vais le faire. Et pourtant, quelque part, ça me dépasse, mais je vais le faire. Voilà. Alors peut-être que vous allez dire, oulala, il s'en va dans le mur. Ben oui, mais si le Seigneur marche devant moi. C'est lui qui va m'ouvrir la mur, et c'est lui qui va m'ouvrir le mur. Et on a fait, hein. Je pourrais vous dire des dizaines et des dizaines d'expériences dans ce sens-là. S'il faut que j'attende maintenant que les astres soient en alignement, On n'est pas sorti. Hein. C'est le travers fréquent observé chez les chrétiens scrupuleux en quête de direction divine, claire, nette et précise. Eh ben, la marche d'Abraham, c'est quand il lui a dit de quitter son pays. Maintenant, il lui dit, maintenant tu quittes la maison de ton père, la famille, ton pays, et tu vas là où je te montrerai. Il n'en savait pas plus, et il y est allé. Heureux Abraham d'y avoir été, hein, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, la grande question. La hantise de se tromper les habite. Et pour et ne pas et ne jamais se tromper, ils font pire. Ils ne font rien. Vous ne trouvez pas que c'est pire ? Il y a du soutien. Ils ne font rien. C'est l'immobilisme total. Et je crois que nos églises sont malades quelquefois. Soit d'une suractivité, on fait n'importe quoi sans consulter le Seigneur, ou alors on reste là tranquille en disant, Seigneur, on attend. Ben moi, quand il y a une prospection à faire, je ne me pose pas la question pour savoir s'il faut la faire ou pas. On va la faire. Hein. S'il y a quelque chose à faire d'une manière ou d'une autre, par le biais des moyens que nous disposons aujourd'hui, modernes ou peut-être les plus anciens qui ont de part et d'autre rendu leurs fruits et qui vont en rendre encore, eh ben moi je ne me pose pas la question parce que je me dis c'est l'évangile qui est prêché. Et s'il y a des gens qui sont là et des gens qui sont ailleurs et dont la parole va faire du bien, et quand on a des retours en disant bien écoutez, moi ça m'a fait quelque chose particulièrement parce que j'étais dans telle et telle situation, je ne peux pas me poser la question pendant midi à 14h. Pas de problème, parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et je le crois, tout simplement. Alors, dynamisme, enthousiasme. Et si par ailleurs la Bible recommande, en toute sagesse, de s'asseoir pour calculer la dépense, parce que ça c'est une question aussi d'intelligence qui finalement eh bien, n'exclut pas ce que nous sommes en train de discuter, sans précision intempestive, il n'est pas normal non plus de prolonger indéfiniment le temps sans jamais passer aux actes. On peut avoir plein de projet dans la tête, mais finalement ne rien faire. À un moment donné, Dieu nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Là, je passe aux actes. Il faut savoir que toute décision est un acte de confiance et qu'elle implique un risque à courir. Est-ce que nous sommes encore des hommes qui voulons, eh bien, mettre Dieu à l'épreuve ? Mettez-moi à l'épreuve et je vous verrai si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Parce qu'autrement, on ne va rien faire. On ne fera jamais rien. Et il y a toujours un risque à courir. Quand il faut déménager, quand il faut changer de situation professionnelle, quand il y a des choses qui sont nouvelles, eh bien, il y a toujours un risque parce que je vais vers l'inconnu. Mais moi, c'est l'inconnu. Il est inconnu pour moi, mais il est connu de Dieu. Et ça, ça me rassure. Même si la volonté de Dieu me parvenait directement du ciel par révélation ou autre chose, il y aurait toujours un léger doute au moment final d'agir. Seigneur, mais j'y vais quand même. Ce doute est permis par Dieu, pourquoi ? Pour nous apprendre à dépasser, je dis bien dépasser nos craintes, et nous prouver que nous restons jusqu'au dernier instant des hommes libres et responsables. Eh oui, et Dieu ne va pas abdiquer de ce côté-là. Tu veux obéir, tu obéis, tu veux pas obéir, tu n'obéis pas. Si tu veux obéir, eh bien tu verras ce que je suis capable de faire avec toi. Mais si tu veux rester comme ça, ben, tu ne verras rien. Et moi, j'ai envie de voir la grâce de Dieu et j'ai envie de voir le miracle de Dieu. On pourrait ajouter à ceci comme obstacle, à l'enthousiasme, les problèmes d'une santé défectueuse, le péché qui agite quelquefois notre vie, etc., etc. Je conclue. Le secret d'une vie dynamique a sa source auprès de celui qui offre, qui a le vouloir et qui donne sans restriction le saint enthousiasme, c'est lui. Un saint enthousiasme, saint avec un T et saint avec un N tout simplement. Et Jésus nous dit en substance, et je finis sur ce verset, si quelqu'un a soif de joie, si quelqu'un a soif de vie, si quelqu'un a soif d'amour, si quelqu'un a soif de paix, s'il a soif de tout ce qui est par excellence dans les trésors de Dieu, qu'il vienne à moi. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. La source ne tarira jamais parce qu'il nous est dit qu'il va boire, parce que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et si les fleuves d'eau vive coulent de notre sein, à ce moment-là, la louange, l'adoration, la prière, les actions, les prospections et tout ce que vous voudrez, mais ça va fuser au milieu de nous. Les canaux seront débouchés, mes frères et sœurs. Et il faut. Est-ce que vous voulez jouer les jeux avec le Seigneur ? C'est vrai ? Vous n'allez pas me laisser tout seul quand même ? Allez, bah vous suivez le Seigneur, vous me suivez pour moi, mais quand même. On veut vraiment. Parce que vous savez, c'est une question de confiance. En tous les cas, si vous n'avez pas confiance en l'homme, enfin, j'en doute, mais en tous les cas, je n'en doute pas que vous n'ayez pas confiance. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous suivez Jésus. Et moi, ce matin, le Seigneur m'a demandé de vous parler en son nom. Alors suivez le Seigneur. Et priez pour nous, nous qui dirigeons les églises, parce que nous avons besoin d'être en phase avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu, et ça, nous la recherchons parce que c'est quand même quelque chose de constant. Et à ce moment-là, on ira tous ensemble et on suivra le Seigneur. Et là, il va donner la vie autour de nous. Il va souffler plein de vie, plein d'ardeur, plein de ferveur, de zèle, tout entier et de tout notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Nous allons prier maintenant. Seigneur, tu nous as donné un mot ce matin, c'est l'enthousiasme. Et nous voulons être des hommes enthousiastes. Alors Seigneur, tu vois nos problèmes humains. Alors ils sont là, c'est vrai. Mais nous ne voulons pas trop y arrêter notre attention. Nous savons que tu nous as rappelé, Seigneur, tout simplement, que nous avons un Sauveur et un Seigneur qui a élu domicile, eh bien, Seigneur, non pas avec nous, c'est pas un voisin, mais c'est quelqu'un qui vit en nous. Oui, nous te bénissons et nous te remercions. Nous sommes le temple de l'Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, ce ne sont pas des monuments, ce ne sont pas des murs, hein, mais c'est la vie, Seigneur, une vie impétueuse. Et nous sommes des chrétiens de charismatiques, nous sommes des chrétiens de la Pentecôte. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous interpelles encore une fois de plus. Pourquoi ? Pourquoi Seigneur, en effet, et cette question si tu nous la poses à chacun, pourquoi il y a si peu de vie ? Alors nous voulons te rendre grâce et te remercier. Puis la vie Seigneur, c'est pas dans les choses extraordinaires. La vie c'est dans les choses normales, dans les choses de bon sens, dans les choses quotidiennes. À commencer Seigneur, tout simplement par un sourire, s'il n'y a pas autre chose à faire. Mais peut-être par des œuvres plus grandes, mais dans lesquelles tu nous conduiras. Seigneur, aide-nous à passer nos complexes. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous recroqueviller sur nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à avoir une bonne interprétation, une bonne compréhension de ta parole. Aide-nous à ne pas laisser traîner des choses qui sont là, Seigneur, à nous tirer en arrière et qui font obstacle lorsque nous voulons regarder devant. Alors toutes ces choses, Seigneur, donne-nous d'être comme les hommes de l'Église primitive. Dans cette Église, nous savons, Seigneur, qu'il n'y avait qu'une chose qui comptait. C'est qu'ils étaient persuadés. En effet, Seigneur, ils le proclamaient avec joie. Dans l'enthousiasme, dans l'allégresse, ils proclamaient non pas une doctrine, non pas là des choses qui sont de l'intellect humain, même si elles sont spirituelles, mais ils proclamaient une personne vivante et ressuscitée. Alors nous, nous sommes vivants et nous sommes ressuscités. Visite ton peuple maintenant. Chacun d'entre nous, je veux avoir une pensée pour tous ceux qui sont accablés, pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent et qui se posent des questions. Seigneur, en cet instant, Seigneur, tu les visites sur leur chaise, tu les visites là où ils se trouvent et ils crient à toi. Mais Seigneur, tu ne veux plus les entendre crier, tu veux les entendre proclamer glorieusement la victoire de Christ dans leur vie. Tu fais du bien, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur. Amen. Amen.